Chapitre vie 1. Voyons maintenant les faits suivants, le plus commun, le plus marquant et le plus funeste de ce mal. L'orgueil convoite extrêmement le pouvoir, qui s'est révélé plus gênant et plus destructeur pour l'humanité que toute autre chose. Il n'est pas difficile de le prouver, puisque la plupart des guerres entre nations, le dépeuplement des royaumes, la ruine des cités, avec l'esclavage et la misère qui ont suivi, sont, comme le montrent notre propre expérience et l'histoire, l'effet de l'ambition, qui est la convoitise de l'orgueil après le pouvoir. 2. Quelque plausibles que fussent les prétextes de Corée, Dasan et Abiram contre Moïse, c'est leur jalousie de son grand pouvoir dans le camp d'Israël qui les poussa à des conspirations et des mutineries. Ils désiraient son autorité et le fait de ne pas l'avoir était, selon eux, son crime, car ils voulaient être les chefs et les conducteurs du peuple. Non 16 1 2 8 10. Il en résulta une destruction remarquable pour eux-mêmes et tous leurs malheureux complices. Non 16 et 24 35 et 3. Absalom aussi se déclara pour les droits du peuple contre la tyrannie de son père et de son roi de Sam 15, du moins c'est sous ce prétexte qu'il dissimula son ambition, mais sa rébellion montra qu'il était impatient d'avoir le pouvoir, et qu'il avait résolu de sacrifier son devoir de fils et de sujet aux exigences de son orgueil inquiet, ce qui lui valut une mort misérable et un massacre extraordinaire de son armée. 4. Nabuchodonosor est un exemple frappant de la convoitise excessive de l'orgueil pour le pouvoir. Ses succès et son empire l'avaient trop enivré. Ils étaient si puissants pour son entendement qu'il en oublia qu'il ne s'était pas fait lui-même, ou qu'il existait une puissance supérieure à la sienne. Il fit une statue, et tous devaient s'y prosterner ou être brûlés. Et lorsque Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent d'obéir, il dit « Qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Dan 3, 15. Et malgré les avertissements de Dieu qu'il avait reçus auparavant par ses hommes excellents, et l'interprétation de Daniel de ses songes, il ne s'écoula pas longtemps avant que l'orgueil de sa puissance eût rempli son cœur, puis sa bouche, de cette question hautaine, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie pour maison royale par la force de ma puissance et pour la gloire de ma majesté ?» Mais il nous est dit que, tandis que ces paroles étaient encore dans sa bouche, une voix du ciel réprimanda l'orgueil de son esprit, et qu'il fut chassé de la société des hommes pour paître parmi les bêtes des champs. Dan 4 30 33 5. Si nous consultons les histoires du monde, nous trouverons bien des exemples qui prouvent les ravages de cette convoitise de l'orgueil, le désir de pouvoir. J'en mentionnerai quelques-uns pour ceux qui ne les ont pas lus ou n'y ont pas réfléchi. Solon rendit Athènes libre par son excellente constitution de loi, mais l'ambition de Pisistrate commença sa ruine sous ses yeux. Alexandre, non content de son propre royaume, envahit les autres, ravagea et massacra dans les pays qu'il soumit. Et cet homme avait raison qui, lorsque Alexandre l'accusa de piraterie, lui dit en face qu'Alexandre était le plus grand pirate du monde. C'est la même ambition qui poussa César Astérisque à trahir ses supérieurs et, avec leur propre armée, qui lui avait été confiée pour leur service, à les soumettre à son joug et à usurper le gouvernement. Ainsi César détruisit à la fois la liberté et la vertu dans cette république, car la bonté ne tarda pas à devenir isolée à Rome. La sobriété et la sagesse, qui avaient toujours été l'estime des sénateurs de Rome, devinrent au contraire dangereuses pour leur sécurité, à tel point que les successeurs de César n'en laissèrent guère un qu'ils ne tuassent ou n'exilassent, à moins qu'ils ne se fissent flatteurs de leur acquisition injuste et imitateurs de leur mœurs débauchées. Astérisque l'exploit, qui a propulsé la réputation de Jules César, fut d'avoir tué 6 millions de personnes pour soumettre la population de la Gaule. Hitler a tué 6 millions de Juifs et est donc, à juste titre, voué aux gémonies, mais l'histoire considère Jules César comme un grand homme. 6. Les Turcs sont une grande illustration de l'effet de l'orgueil. Pour étendre leur domination, ils ont fait couler beaucoup de sang et ont dévasté bien des pays majestueux. Et pourtant ils sont surpassés par des chrétiens apostats, dont la conduite est d'autant plus condamnable qu'ils ont été mieux instruits. Ils ont eu un maître d'une autre doctrine et d'un autre exemple. Il est vrai, ils l'appellent encore Seigneur Astérisque mais ils laissent leur ambition régner. Ils aiment le pouvoir plus qu'ils ne s'aiment les uns les autres, et pour l'obtenir, ils s'entretuent. Et ils tuent alors même que le Christ leur a commandé non de frapper, mais de s'aimer et de se servir les uns les autres. Cette tragédie est aggravée par le fait que toute affection naturelle est sacrifiée à la fureur de cette convoitise, avec des exemples de meurtres de parents, d'enfants, d'oncles, de neveux, de maîtres, etc. Astérisque bien que la chrétienté l'appelle Seigneur, leurs paroles et leurs actes le renient comme Seigneur et Maître. Ce sont des hypocrites, ils le louent des lèvres, tandis que leurs cœurs sont pleins de mal, qui dirigent leurs mauvaises paroles et leurs conduites dans la vie quotidienne. Le mépris et la désobéissance à ses enseignements et à ses commandements le renient comme Seigneur et Maître. Persistant dans le péché, ils sont esclaves du péché. Persistant dans le péché, Jésus n'est pas leur sauveur parce qu'il ne les a pas sauvés de leur péché. 7. Si nous regardons au loin, dans les régions plus reculées du monde, nous entendrons rarement parler de guerre, mais dans la chrétienté, nous entendons rarement parler de paix. Dans la chrétienté, de petites choses sont trop souvent le fondement d'une grêle entre nations. Dans la chrétienté, tout pacte ou traité peut être rompu et dissous pour accroître un territoire. Les ambitieux doivent avoir ce qu'ils désirent, peu importe qui, ni combien sont tués, rendus veuves et orphelins, ou privés de leurs biens et de leurs moyens d'existence, quels pays sont ruinés, quelles villes et cités sont pillées. Rien que dans les 60 dernières années, nous avons eu bien des guerres commencées sur un pauvre prétexte et terminées dans une grande désolation. Non, les 12 dernières années de notre temps sont le pire exemple, de toute époque, de la destruction causée par l'ambition de la chrétienté. Il serait trop long, et ce n'est pas mon rôle, d'entrer dans les détails, d'autres l'ont souvent très bien observé, et c'est presque connu de tous. Je parle des guerres françaises, espagnoles, allemandes, anglaises et hollandaises. Mise à jour moderne venant du Seigneur, le Seigneur m'a dit, « Là où il y a l'obéissance, il y a la justice, sans elle, vous avez la Seconde Guerre mondiale. » N'oublions pas que l'Allemagne nazie était une nation chrétienne. Dès les débuts du parti nazi et pendant toute la période de conquête et d'expansion, Hitler a exprimé son soutien chrétien aux citoyens et aux soldats allemands. Hitler est cité ci-dessous. « Mes sentiments de chrétien me conduisent à mon Seigneur et Sauveur comme un combattant. Ils me conduisent à l'homme qui, autrefois, dans la solitude entouré seulement de quelques disciples, reconnut ses juifs pour ce qu'ils étaient et appela les hommes à lutter contre Zéki, par la vérité de Dieu, fut grand non comme souffrant, mais comme combattant. Dans un amour sans borne comme chrétien et comme homme, je relis le passage qui nous raconte comment le Seigneur, enfin, se leva dans sa puissance et saisit le fouet pour chasser du temple la couvée de vipères et d'aspic. Quel combat terrible il mena pour le monde contre le poison juif. Aujourd'hui, après 2000 ans, avec une émotion très profonde, je reconnais plus profondément que jamais que c'est pour cela qu'il dut verser son sang sur la croix. En tant que chrétien, je n'ai pas le devoir de me laisser tromper, mais j'ai le devoir d'être un combattant pour la vérité et la justice. Et s'il est quelque chose qui puisse démontrer que nous agissons correctement, c'est la détresse qui grandit chaque jour. Car en tant que chrétien, j'ai aussi un devoir envers mon propre peuple. Quand je sors le matin et que je vois ces hommes faire la queue et que je regarde leur visage tiré, alors je crois que je ne serais pas chrétien, mais un véritable diable si je n'éprouvais aucune pitié pour eux, si je ne me tournais pas, comme l'a fait notre Seigneur il y a 2000 ans, contre ce par qui, aujourd'hui, ce pauvre peuple est dépouillé et exploité. Adolf Hitler, dans son discours à Munich le 12 avril 1922, aussi horrible et dégoûtant que soit le discours ci-dessus, il illustre comment le fait de s'appuyer sur un petit ensemble de passages bibliques, tout en ignorant l'ensemble des Écritures, peut faire naître une religion monstrueuse. Aujourd'hui, il existe 45 000 sectes du christianisme, chacune avec son sous-ensemble différent de passages, chacune avec ses interprétations différentes, chacune sans obéissance, chacune sans justice. Comme le Seigneur l'a dit plus haut, avec l'obéissance, il y a la justice, sans l'obéissance, il y a la Seconde Guerre mondiale. 8. Mais l'ambition ne demeure pas seulement dans les cours et les sénats. Il est trop naturel à chaque individu de tendre au pouvoir. Nous voyons chaque jour combien les hommes déploient tout leur esprit et tout leur intérêt pour être grands, obtenir des places plus élevées ou des titres plus grands que ceux qu'ils ont, afin de paraître plus importants et d'être davantage reconnus, prendre le pas sur leurs anciens égaux et ainsi égaler ceux qui furent autrefois leurs supérieurs, contraindre des amis et se venger d'ennemis. Voilà pourquoi le christianisme des gens du monde est si peu aimé. Le royaume du vrai christianisme n'est pas de ce monde. Bien que le chrétien mondain parle du royaume, c'est le monde qu'il aime. Nous pouvons dire en vérité, les gens professent le christianisme, mais ils suivent le monde. Ils ne cherchent pas d'abord le royaume des cieux et sa justice, Matthieu 6:33, et ne font pas confiance à Dieu pour le reste, mais cherchent plutôt à assurer la richesse et la gloire de ce monde, ne se souciant du salut que lorsqu'ils sont malades ou dans une crise de la vie, s'ils croient encore à une vie après la mort. 9. Pour conclure ce sujet, grande est la paix de ceux qui savent mettre une limite à leur esprit ambitieux, qui ont appris à se contenter des dispositions et des bornes de la Providence, qui ne s'efforcent pas d'être grands, mais qui, étant humbles, font le bien et sont ainsi grands. Ceux-là gardent leur raison avec leur conscience, et d'un esprit égal, peuvent en tout temps mesurer le monde inégal, demeurant fermes au milieu de toutes ces incertitudes. Ceux-là ont part à un monde meilleur, qui viendra en son temps et selon la volonté de Dieu, lorsqu'ils quittent ce monde avec joie. Mais les ambitieux, conscients de leurs mauvaises pratiques et chargés de culpabilité jusque dans leur tombe, doivent aller devant un tribunal qu'ils ne peuvent ni intimider ni soudoyer. Chapitre X1. Le troisième effet mauvais de l'orgueil est un désir excessif d'honneur personnel et de respect. L'orgueil aime donc le pouvoir afin d'être révéré et que chacun lui rende honneur, et ceux qui manquent de le faire s'exposent à sa colère et à sa vengeance. Et comme l'orgueil, cet effet mauvais est plus ou moins répandu dans l'humanité corrompue, et il a été l'occasion de grandes animosités et de grands ravages dans le monde. 2. Nous avons dans l'Écriture un exemple classique de la malice et de la vengeance dont un homme orgueilleux est capable lorsqu'il n'est pas satisfait sur ce point. Cela faillit coûter la tête à Mardochée et la vie à tout le peuple des Juifs parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant Haman, qui était un grand favori du roi Assuérus. Et la pratique du monde, même à notre époque, nous dit que ne pas amener un pavillon ou une voile, et ne pas saluer certains ports ou garnisons, oui, même des choses moins importantes, ont donné lieu à de grandes guerres entre États et royaumes, au prix de beaucoup de trésors, mais de plus de sang encore. Il en est allé de même au sujet de la préséance des princes et de leurs ambassadeurs. De même encore, l'envie, les querelles et les méfaits survenus entre personnes privées, par l'idée qu'elles n'avaient pas été respectées selon leur rang ou leur qualité parmi les hommes, sans chapeau, sans génuflexion, ou sans titre, à coup sûr, des duels et des meurtres en nombre. Il m'est arrivé moi-même, en France, c'était avant que je ne professe la communion à laquelle j'appartiens maintenant, d'être attaqué vers 11h du soir, alors que je marchais vers mon logis, par une personne qui m'avait guetté l'épée nue à la main, et qui me demanda réparation pour n'avoir pas fait attention à lui au moment où il m'avait salué poliment en ôtant son chapeau, alors que, en vérité, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Je suppose qu'il aurait pu me tuer, car il porta plusieurs coups contre moi. Pour ma défense, j'aurais pu le tuer lorsque je le désarmais, comme le vit le serviteur du comte de Crawford qui se trouvait tout près. Je demande à tout homme de jugement ou de conscience si toute cette affaire valait la vie d'un homme, compte tenu de la dignité de la nature humaine et de l'importance de la vie d'un homme, et en les considérant par rapport à Dieu son Créateur, à lui-même et au bien de la société civile. 3. Mais la vérité est que le monde, dans sa dégénérescence loin de Dieu, s'est écarté du véritable honneur et du véritable respect comme en d'autres choses. Une grande part des honneurs et des respects exprimés dans le monde ne sont que du spectacle et sont généralement vains. De même que l'apôtre Paul parle d'une fausse science, de même les honneurs et les respects sont faux, n'ayant rien de la nature du véritable honneur et du véritable respect. Ils ont plutôt été inventés par des hommes dégénérés qui aiment être honorés, ainsi l'orgueil seul les aime et les recherche, et ils se sentent offensés et en colère s'ils lui sont refusés. Si les hommes connaissaient le véritable état chrétien et l'honneur qui vient d'en haut, que Jésus enseigne, ils ne convoiteraient pas ses vanités, et encore moins y insisteraient. Mais est juif celui qu'il est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, la louange de cet homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2:29-4. Voici l'occasion pour moi d'exposer plus particulièrement les raisons pour lesquelles moi, et les personnes avec lesquelles je chemine dans la société religieuse, avons rejeté, comme vaines et folles, plusieurs coutumes et modes mondaines de respect, fort en vogue de nos jours. Je vous en prie, lecteur, mettez de côté tout préjugé et tout mépris, et avec la douceur et l'esprit de recherche d'un jugement sobre et discret, lisez et pesez ce qui pourra être allégué ici pour notre défense, et si nous nous trompons, ayez plutôt pitié et instruisez-nous, que de mépriser et d'abuser de notre simplicité. 5. Le premier et le plus pressant motif pour notre esprit est de refuser la pratique de ces coutumes actuelles consistant à ôter son chapeau, à incliner le corps ou le genou, et à donner aux gens des titres et des épithètes voyants dans nos salutations et nos adresses. Cette disposition, que Dieu nous a donnée par la vue et le sentiment de lui-même, grâce à sa lumière et à son esprit en nous, fut la cause de l'apostasie du monde chrétien loin de Dieu et des effets de cette grande et lamentable défection. Dans la découverte de la cause de cette défection, le sentiment de notre état se présenta d'abord à nous, et nous fûmes amenés à voir celui que nous avions percé et à en pleurer. Un jour d'humiliation nous atteignit, et nous perdîmes les plaisirs et les délices que nous aimions autrefois. Au début, nos œuvres furent jugées, et il fut procédé à une recherche approfondie, et les paroles du prophète devinrent bien comprises par nous, et qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui pourra subsister quand il paraîtra. Il est comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons, mal, 3:2, et comme dit l'apôtre, si le juste est à peine sauvé, où paraîtra l'impie et le pécheur, 1 Pierre 4:18. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes, 2 Cor 5:11, à faire quoi? À sortir de la nature, de l'esprit, des convoitises et des coutumes de ce monde méchant, se souvenant que, comme Jésus l'a dit, de toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement, Matthieu 12:36, note de l'éditeur du site. Penn décrit la profondeur du salut des premiers Quakers, le retour du Seigneur pour les juger pour un nettoyage final. Il soutient qu'ils avaient une connaissance si intime de Dieu, une expérience si écrasante de crainte révérentielle et de respect, que même les petites politesses de l'époque, qui consistaient à honorer l'homme, leur devinrent odieuses parce qu'elles diminuaient l'honneur rendu à Dieu. De même, ils craignaient de lui déplaire par des paroles et des actes frivoles. Et, comme George Fox le disait, leur crainte de Dieu n'était pas tant qu'ils seraient punis, mais qu'ils décevraient celui qu'ils aimaient si tendrement. Cette inquiétude de l'esprit et cet abattement intérieur étaient visibles pour nos voisins, et nous n'avons pas honte de reconnaître que les terreurs du Seigneur s'emparèrent ainsi de nous, parce que nous avions longtemps, sous une profession de religion, attristé le Saint-Esprit de Dieu, qui nous reprenait en secret pour notre désobéissance, de sorte que comme nous avions horreur de penser à continuer dans nos anciens péchés, de même nous craignons d'user même de choses licites, de peur d'en user illicitement. Notre ciel semblait se fondre, et notre terre être arrachée de sa place, et nous étions comme des hommes, selon la parole de l'apôtre, sur qui les fins du monde étaient venues. Dieu sait qu'il en fut ainsi en ces jours-là, l'éclat de sa venue à nos âmes découvrit, et le souffle de sa bouche détruisit, toute plante astérisque qu'il n'avait pas plantée en nous. Il fut un témoin prompt contre toute mauvaise pensée et toute œuvre infructueuse, et béni soit son nom, nous ne nous sommes pas scandalisés en lui, ni par ses justes jugements. Alors une grande enquête s'abattit sur toute notre vie. Chaque parole, pensée et action fut amenée au jugement, la racine examinée et sa tendance considérée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 16, nous furent dévoilés, le mystère de l'iniquité en nous. En connaissant le mauvais levain et ses divers effets mauvais en nous-mêmes, la manière dont il avait agi et ce qu'il avait produit, nous en vînmes à avoir le sentiment et la connaissance de l'état des autres, et ce que nous ne pouvions pas, non ce que nous n'osions pas laisser vivre et demeurer en nous-mêmes, parce qu'il nous était manifesté procéder d'un mauvais principe dans le temps de la dégénérescence de l'homme, nous ne pouvions pas nous y conformer chez les autres. Or je dis ceci, et cela dans la crainte et en présence du Dieu juste qui voit tout, les honneurs et les respects présents du monde, entre autres choses, devinrent pour nous un fardeau. Nous vîmes qu'il n'avait aucune existence au paradis, qu'il croissait dans la nuit et venait d'une mauvaise racine, et qu'il ne réjouissait qu'un esprit vain et mauvais, et qu'il y avait en eux beaucoup d'orgueil et de folie. Astérisque Penn vient de décrire avec une très grande modestie le fabuleux retour de Jésus, leur expérience de la fin du monde, la mise à mort de l'Antéchrist en eux, et leur entrée dans le royaume de Dieu, si modestement, parce qu'ils cherchent seulement à expliquer que leur retenue à honorer les hommes est due à leur immense transformation intérieure par le Christ. 6. Et bien que nous ayons facilement prévu les tempêtes de reproches qui s'abattraient sur nous parce que nous refusions de pratiquer ces honneurs rendus aux hommes, nous étions si loin d'être ébranlés dans notre jugement que ces reproches anticipés confirmèrent grandement notre conviction de leur nécessité. L'homme est si exalté, et il aime tant l'honneur et le respect, même de la part de ses semblables, que dès que notre délicatesse de conscience envers Dieu eut pour conséquence l'abandon de ses honneurs, il les autres hommes ignora tout ce que nous disions touchant le salut, en ne se concentrant que sur le fait que nous ne l'honorions pas par des superficialités vaines. Quels que fussent les principes que nous exposions concernant l'honneur de Dieu et notre propre salut, ils les autres hommes jugeaient bien plus important, et une hérésie et un blasphème bien plus grand de lui refuser l'honneur d'ôter notre chapeau, ou de lui refuser des titres flatteurs, ou de refuser de porter un toast à sa santé en buvant de l'alcool, un toast à la santé de quelqu'un, ou de refuser de jouer aux cartes et aux dés avec lui. Quoique notre religion pratiquât d'autres, cela n'avait aucune importance pour lui, car toutes les autres pratiques de notre religion étaient éclipsées par notre refus de l'honorer par des superficialités vaines. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Jacques 2, 9. Faire preuve de partialité envers des personnes est une transgression de la loi pour les chrétiens. Quelle loi? La loi de Dieu qui est dans le cœur de chaque homme et n'a jamais été annulée. 7. On soutient fréquemment que notre refus ne concerne que des formes extérieures précises de piété, mais cette accusation n'est qu'un mensonge fédérateur pour nos opposants. Je déclare, dans la crainte du Dieu Tout-Puissant, que ces arguments imaginés et ces constructions vaines viennent d'hommes mal informés. Ces opposants n'ont pas l'intelligence que le Seigneur nous a donnée de ce qui procède des bonnes et des mauvaises racines en l'homme. Quand de tels censeurs de notre simplicité seront touchés intérieurement et réveillés par la puissante puissance de Dieu, de sorte qu'ils voient les choses à la lumière de leur vraie nature et de leur semence, alors ils connaîtront leurs propres obligations semblables. Ils pourront alors aisément voir notre innocence et l'injustice de leurs accusations passées de folie et d'hypocrisie à cause de notre refus d'honorer les hommes. 8. Ils disent que nous nous crispions sur des petites choses, ce qui est incompatible avec nos prétentions à la liberté et à la liberté d'esprit. Je réponds avec douceur, Vérité et sobriété d'abord, rien n'est petit lorsque Dieu en fait une affaire de conscience à faire ou à ne pas faire. Ensuite, si petite que nos objecteurs disent que sont ces choses sur lesquelles nous nous montrons scrupuleux, nos objecteurs jugent néanmoins notre refus assez important pour nous battre, nous emprisonner, nous refuser justice, etc. Sans tenir compte de la dérision et des reproches qui nous ont été souvent jetés à ce sujet. Ainsi, si nous avions voulu une preuve de la vérité de notre croyance et de notre jugement intérieur, les réactions violentes de nos opposants auraient été une confirmation suffisante. Qu'il suffise de dire que « la sagesse est justifiée par ses enfants » Matthieu 11-19. Nous cessons simplement, de manière passive, de pratiquer ce qu'on nous a enseigné à croire vain et antichrétien. Une cessation passive ne peut être imputée comme une forme de piété, car en supprimant des pratiques, nous n'établissons pas de nouvelles formes. 9. Le monde est tellement attaché aux cérémonies extérieures que la sagesse de Dieu, en tout temps, a été de faire paraître ses dispensations sous des aspects très différents de leurs coutumes établies. Ainsi la dispensation de Dieu a contredit les inventions humaines et a ainsi prouvé l'intégrité de ses confesseurs. Non, le refus de l'honneur est une épreuve pour le monde. Il met à l'épreuve la patience, la bonté, la sobriété et la modération qu'il possède. Si l'extérieur rude et grossier de la vérité ne les fait pas trébucher à cause de cette suppression des honneurs, dont la beauté est intérieure, une grande découverte se fait en eux. Car celui qui refuse un joyau précieux parce qu'il est présenté dans une boîte simple ne l'estimera jamais à sa valeur, ni ne mettra son cœur à le garder. C'est pourquoi je l'appelle une épreuve, parce qu'elle montre où sont retenus les cœurs et les affections des gens, malgré toutes leurs grandes prétentions à des choses plus excellentes. 10. C'est aussi une grande épreuve pour le peuple de Dieu. Lorsque le monde découvre qu'ils contredisent les coutumes généralement reçues et estimées dans le monde, il, le peuple de Dieu, s'expose à l'étonnement, au mépris et aux abus de la multitude. Mais il y a là un trésor caché, cela nous immunise contre la dérision, cela nous apprend à mépriser la fausse réputation du monde et à supporter en silence la contradiction et le mépris des dévots du monde, et finalement, avec une douceur et une patience chrétienne, à surmonter leurs injures et leurs mépris. Ajoutez à cela que cela vous sevrera de vos relations, car étant dédaigné par elles comme un idiot, un fou, un fanatique, etc., vous êtes délivré d'une tentation plus grande, le pouvoir et l'influence de leurs vaines conversations. Enfin, cela vous enrôle dans la compagnie des bienheureux, du Jésus moqué et persécuté, pour combattre sous sa bannière contre le monde, la chair et le diable, afin qu'après avoir fidèlement souffert avec lui dans un état d'humiliation, vous régniez avec lui dans un état de glorification, lui qui glorifie ses pauvres et certains disciples méprisés par la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde fût Jean 17:5. Telle est la première et principale raison pour laquelle nous refusons de pratiquer les honneurs, respects, etc., mentionnés plus haut, 11. La deuxième raison pour laquelle nous déclinons et refusons l'usage actuel de ces coutumes dans nos adresses et salutations vient de la considération de leur vide et de leur vanité, car il n'y a en elles rien de véritablement honorable ni de véritablement respectueux, même si elles n'étaient pas mauvaises. De même que la religion et le culte ont dégénéré en forme et en cérémonie, et que ces formes et cérémonies du christianisme ne sont pas selon la pratique des premiers chrétiens, de même l'honneur et le respect ne le sont pas non plus selon la pratique des premiers chrétiens. Il y a aussi peu de véritable honneur dans le monde que de véritables religions et de véritables cultes, et assurément, dans ces coutumes, rien ne peut être justifié par l'Écriture ou par la raison. 12. Dans l'Écriture, nous trouvons le mot honneur souvent et fréquemment employé. D'abord pour l'obéissance, comme lorsque Dieu dit « Ce qui m'honore » 1 Samuel 2:30, c'est-à-dire ce qui garde mes commandements. « Honorez le roi » 1 Pierre 2:17, c'est-à-dire obéissez au roi. « Honore ton père et ta mère » Exode 20:12, c'est-à-dire, dit l'apôtre aux Éphésiens, « Obéissez à votre père et à votre mère dans le Seigneur, car cela est juste » Ephésiens 6:2. « Prêtez attention à leurs préceptes et à leurs conseils, en supposant toujours que les chefs et les parents commandent des choses licites. Autrement, ils se déshonorent eux-mêmes en ordonnant des choses illicites. Et les sujets et les enfants déshonorent leurs supérieurs et leurs parents en se conformant à leurs ordres injustes. » Le Christ emploie aussi ce mot ainsi lorsqu'il dit « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez » Jean 8:49. C'est-à-dire « Je fais la volonté de mon Père dans ce que je fais, mais vous ne voulez pas m'entendre, vous rejetez mon conseil et vous n'obéissez pas à ma voix. » Il ne s'agissait pas de refuser chapeau et génuflexion, ni de vaines bagatelles, non, c'était la désobéissance, la résistance à celui que Dieu avait envoyé, et l'incrédulité en lui. Tel était le déshonneur dont il les accusait, l'accusant d'être un imposteur, lui que Dieu avait établi pour le salut du monde. Et des gens qui déshonorent ainsi, il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui. le Christ dit une parole du même effet, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, Jean 5, 23, c'est-à-dire que ceux qui n'écoutent pas le Christ, et ne l'adorent ni lui obéissent, n'écoutent, n'adorent ni n'obéissent à Dieu. Comme ils prétendaient croire en Dieu, ils devaient croire en lui, il le leur dit. Cela se voit clairement dans le cas du centenier, dont la foi fut silouée par le Christ, lui rendant compte de sa position honorable, il lui dit qu'il avait des soldats sous son autorité, et que, quand il disait à l'un, « Va », il allait à un autre, « Viens », il venait, et à un troisième, « Fais ceci », il le faisait, Luc 7, 8. C'est dans ses actes d'obéissance qu'il plaçait l'honneur de sa charge et le respect de ses soldats, et non dans des chapeaux et des révérences, et de telles coutumes ne sont d'ailleurs pas en usage parmi les soldats, étant efféminés et indignes d'une gravité virile. 13. Ensuite, l'honneur est censé être employé pour une position supérieure de confiance et des emplois éminents. Ainsi le psalmiste, parlant à Dieu, « Car tu l'as couronné de gloire et d'honneur encore, tu as mis sur lui honneur et majesté », psaume 8, 5, 21, 5, c'est-à-dire que Dieu a donné au Christ la puissance sur tous ses ennemis et l'a élevé à une grande domination. Ainsi le sage l'insinue, lorsqu'il dit « La crainte de l'Éternel est l'instruction de la sagesse, et l'humilité précède l'honneur », Pro 15, 33, c'est-à-dire que l'humilité précède l'avancement ou la préférence. Plus loin il dit « Comme la neige en été, et comme la pluie à la moisson, ainsi l'honneur ne convient pas à un insensé », Pro 26, 1, c'est-à-dire qu'un insensé n'est pas capable de la dignité d'une charge, d'un emploi ou d'une préférence, qui requiert vertu, sagesse, intégrité et diligence, dont les insensés sont dépourvus. Et pourtant, si les respects et les titres en usage parmi nous le peuple d'Angleterre ou XVIII siècle doivent passer pour des marques d'honneur, le proverbe de Salomon s'appliquera, et sans doute s'applique à la pratique de ce siècle, qui accorde tant de cet honneur à un grand nombre des insensés de Salomon, qui ne sont pas seulement sots mais aussi méchants, tels que ceux qui refusent l'instruction et haïssent la crainte de l'Éternel, Pro 13, 18, lesquels instruction et crainte seuls font l'un de ces sages. 14. Comme la vertu et la sagesse vont ensemble, de même la folie va avec la méchanceté. Ainsi la relation de Sichem avec Dina, fille de Jacob, est appelée ainsi Gênes 34, 7, de même la rébellion et la méchanceté des Israélites au temps de Josué et Josué 7, 15. Le psalmiste s'exprime ainsi, « Mes plaies sont infectes parce que j'ai agi follement », psaume 38, 5, c'est-à-dire son péché. Et l'Éternel parlera de paix à ses saints, mais qu'il ne retourne pas à la folie, psaume 85, 8, c'est-à-dire au mal. Ses propres iniquités, dit Salomon, prendront le méchant, et il sera retenu par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, et par la grandeur de sa folie, il s'égarera, Pro 5, 22, 23. Le Christ met la folie avec le blasphème, l'orgueil, le vol, les meurtres, les adultères, la méchanceté, etc. Marc 7, 21, 22. J'ai d'autant plus volontiers ajouté ces passages pour montrer les différences entre la pensée du Saint-Esprit et la notion qu'avaient ces âges-là des fous qui ne méritaient pas l'honneur, et ce qu'on entend généralement par fous et folie de notre temps, afin de mieux comprendre la disproportion entre l'honneur tel qu'il était alors compris par le Saint-Esprit et ce qui était conduit par lui, et l'idée qu'en ont et la pratique qu'en ont ces derniers âges de chrétiens de profession. 15. Mais l'honneur se prend aussi pour la réputation, et c'est ainsi que nous l'entendons, « Une femme gracieuse, dit Salomon, retient l'honneur, Pro 11, 16, c'est-à-dire qu'elle conserve son crédit et, par sa vertu, maintient sa réputation de sobriété et de chasteté. » En un autre lieu, c'est un honneur pour un homme de cesser les crêles, Pro 23, c'est-à-dire que cela sert sa réputation d'homme sage et bon. Le Christ emploie le mot ainsi lorsqu'il dit « Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans sa patrie », Matt 13, 57, c'est-à-dire qu'il a du crédit et qu'il est estimé sauf chez lui. L'apôtre aux Thessalonians dit en ce sens « Que chacun de vous sache posséder son vase maîtrisé, son corps dans la sanctification et l'honneur », 1 4, 4, c'est-à-dire dans la chasteté et la sobriété. Dans tout cela, rien des modes que nous avons refusés n'entre en jeu autrement que pour en être totalement exclu. Astérisque traduction, il n'y a aucune référence aux modes d'honneur que les Quakers refusaient de rendre aux hommes, comme étant honorés dans l'Écriture. Penn dit cela parce que le monde insistait sur le fait que s'incliner, toucher son chapeau et employer des titres d'adresse superflus ne faisait que montrer de l'honneur à son prochain. 16. Il existe encore un autre usage du mot honneur dans l'Écriture, à savoir pour des fonctions et des capacités, comme « un ancien est digne d'un double honneur », Tim 5, 17, c'est-à-dire qu'il mérite une double estime, amour et respect étant saint, miséricordieux, tempérant, paisible, humble, etc., en particulier celui qui travaille à la parole et à la doctrine. Ainsi Paul recommande Épaphrodite aux Philippiens, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec toute joie, et tenez de tels hommes en honneur », Phil 2, 29, comme s'il avait dit, « Qu'ils soient estimés et considérés par vous dans ce qu'ils disent et enseignent, ce qui est la manière la plus vraie, la plus naturelle et la plus convaincante de témoigner du respect à un homme de Dieu. » Comme le Christ a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » En outre, l'apôtre nous dit d'honorer les veuves qui le sont vraiment, c'est-à-dire que les femmes d'une vie chaste et d'une vertu exemplaire sont honorables. 17. Le mot « honneur » dans l'Écriture s'emploie aussi des supérieurs envers les inférieurs. Cela est évident dans l'exemple d'Assuérus à Aman. « Que fera-t-on à l'homme que le roi prend plaisir à honorer ?» Est 6.6. Eh bien, il l'éleva grandement, comme ce fut ensuite le cas de Mardochée. Et plus particulièrement, il est dit que les Juifs sur la lumière, l'allégresse, la joie et l'honneur, Est 8.16, c'est-à-dire qu'ils échappèrent à la persécution qui allait s'abattre sur eux, et que, par le moyen d'Est et de Mardochée, ils jouirent non seulement de la paix, mais aussi de la faveur et du soutien. En ce sens, l'apôtre Pierre conseilla aux hommes chrétiens d'honorer leurs femmes, 1 Pierre 3.7, c'est-à-dire de les aimer, de les estimer, de les chérir, de les soutenir et de les tenir en estime, pour leur fidélité et leur affection envers leur mari, pour leur tendresse et leurs soins à l'égard de leurs enfants, et pour leur diligence et leur circonspection dans leur famille. Il n'est besoin d'aucune conduite cérémonieuse ni de titre voyant pour exprimer cet honneur. Ainsi Dieu honore les hommes saints, ceux qui m'honorent, dit le Seigneur, je les honorerai, et ceux qui me méprisent seront tenus pour peu, 1 Sam 2:30, c'est-à-dire, je leur ferai du bien, je les aimerai, les bénirai, les soutiendrai et les ferai prospérer, eux qui m'honorent, qui m'obéissent, mais ceux qui me méprisent, qui résistent à mon esprit et transgressent ma loi, seront estimés à peu considérés, ils ne trouveront pas faveur auprès de Dieu ni auprès des justes. Ainsi le voyons-nous, chaque jour parmi les hommes, si les grands rendent visite aux pauvres ou se préoccupent de leur venir en aide, nous disons qu'un tel grand homme m'a fait l'honneur de venir me voir, ou de m'aider, dans mon besoin, 18. Je conclurai sur ce point par un passage de plus, très ample, clair et pertinent, honorer tous les hommes, et aimer la fraternité, 1 Pierre 2:17, c'est-à-dire que l'amour est au-dessus de l'honneur, et qu'il est réservé à la fraternité. Mais l'honneur, qui est estime et considération, vous le devez à tous les hommes, et si à tous, alors aussi à vos inférieurs. Mais pourquoi à tous les hommes? Parce qu'ils sont la création de Dieu, et la partie la plus noble de sa création, ils sont aussi de votre espèce, soyez naturels, et assistez-les autant que vous le pouvez, soyez prêts à leur témoigner tout respect réel, et à leur accorder tout bien ou toute bonté que vous pouvez, 19. Et pourtant, il semble y avoir une limitation au commandement, honorer tous les hommes, dans ce passage du pieux David, qui séjournera dans ton tabernacle, qui habitera sur ta montagne sainte, celui qui tient pour méprisable l'homme vil, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, Psaume 15:1-4. Ici l'honneur est restreint et attaché aux personnes pieuses, et le déshonneur est fait le devoir du juste envers les méchants, et une marque de leur justice qu'ils déshonorent, c'est-à-dire qu'ils dédaignent ou négligent les impies. Pour conclure cette enquête scripturaire sur l'honneur, je ramènerai le sujet à 3 catégories, supérieurs, égaux et inférieurs. L'honneur, envers les supérieurs, c'est l'obéissance, envers les égaux, l'amour, envers les inférieurs, le soutien et l'aide. Voilà des exemples de l'honneur selon la pensée de Dieu et selon la manière des saints d'autrefois. 20. Mais combien de tout cela voit-on ou obtient-on, dans un pauvre et vide chapeau, une révérence, une courbette ou un titre flatteur et voyant que le témoin de Dieu, qui dit la vérité en toute l'humanité, en juge. Car je ne dois pas en appeler à l'homme corrompu, orgueilleux et intéressé pour savoir si ses coutumes sont bonnes ou mauvaises. Un tel homme pratiquerait rarement ses honneurs envers autrui, il les aime et les recherche pour lui-même, et il se fâche et s'irrite s'il ne les reçoit pas. C'est notre deuxième raison de refuser de pratiquer les cérémonies accoutumées d'honneur et de respect, parce que nous ne trouvons pas une telle notion, ni une telle expression d'honneur et de respect recommandée par le Saint-Esprit dans les Écritures de vérité. 21. Notre troisième raison de ne pas les utiliser comme témoignage d'honneur et de respect est qu'il n'y a en elles aucune manifestation d'honneur ou de respect, au contraire, elles les éludent et les rendent équivoques, trompant les gens sur l'honneur et le respect qui leur sont dus, et ne leur donnant rien sous le prétexte de quelque chose. En elles, les cérémonies d'honneur et de respect, il n'y a aucune obéissance aux supérieurs, aucun amour des égaux, aucune aide ni aucun soutien aux inférieurs. 22. Nous sommes, nous le déclarons au monde entier, pour l'honneur véritable et le respect. Nous honorons le roi, nos parents, nos maîtres, nos magistrats, nos propriétaires, les uns les autres, oui, tous les hommes, selon la voie de Dieu, comme le pratiquaient les saints hommes et femmes d'autrefois. Mais nous refusons ces usages ôter son chapeau, s'incliner, titre flatteur, comme vain et trompeur, n'atteignant pas le but pour lequel on les emploie. 23. Mais quatrièmement, il y a encore davantage à dire. Nous constatons que les gens vains, dissolus et mondains en sont les grands amateurs et praticiens, et ce qui raille le plus notre simplicité de conduite. Or nous savons assurément, par les saints témoignages, que ces gens ne peuvent rendre un véritable honneur, eux qui vivent dans un esprit déshonorant, ils n'en ont pas l'intelligence, mais ils peuvent donner le chapeau et le genou, et ils en sont très prodigues, et nul n'y est plus expert. C'est pour nous une preuve qu'aucun honneur véritable ne peut être attesté par ces usages que la vanité et la licence aiment et pratiquent. 24. À cela j'ajouterai l'hypocrisie, et la vengeance aussi, car combien peu beaucoup se soucient-ils les uns des autres. Non, quelle rancune, quelle envie, quelle animosité, quelle médisance secrète et quel complot les uns contre les autres, sous le couvert de ces vains respects, jusqu'à ce que la passion, trop forte pour la ruse, fasse éclater l'hypocrisie en affront ouvert et en vengeance. Cela est incompatible avec les définitions scripturaires de l'honneur. Obéir à un homme, ou le préférer par dépit, ne se fait ordinairement pas, et aimer, aider, servir et montrer de la bonté à quelqu'un, afin de le tromper et de se venger de lui, n'est jamais mentionné dans l'Écriture. L'Écriture ne préconise ni l'hypocrisie ni la vengeance. Les hommes ne rendent pas des respects superficiels pour diminuer la malveillance, les témoignages disent tout le contraire. Il est absurde de l'imaginer parce qu'il est impossible de le faire. 25. Notre sixième raison est que l'honneur existe depuis le commencement, mais les respects du chapeau et la plupart des titres sont venus plus tard. Il y avait donc un honneur véritable avant les chapeaux ou les titres, et par conséquent, le véritable honneur ne réside pas en eux. Et quelle que fût la manière d'exprimer le véritable honneur, c'est encore la meilleure manière, et l'Écriture l'enseigne mieux que ne le peuvent les maîtres à danser. 26. Septièmement, si l'honneur consiste en de telles cérémonies, il s'ensuivra que ceux-là sont les plus capables de montrer de l'honneur, qui les accomplissent le plus exactement, selon le mode ou la façon du temps. Par conséquent, que cet homme n'a pas la mesure du véritable honneur, par un principe juste et raisonnable en lui-même, mais par le moyen et l'habileté des fantasques maîtres à danser du temps. Et c'est pour cette cause que nous voyons beaucoup donner beaucoup d'argent pour que leurs enfants apprennent leurs honneurs, faussement ainsi appelés. Et qu'est-ce que cela, sinon exclure totalement les pauvres gens des campagnes, qui, bien qu'ils labourent, cultivent, sèment, moissonnent, vont au marché, et en toute chose obéissent à leurs juges, propriétaires, pères et maîtres avec sincérité et sobriété, usent rarement de ces cérémonies, mais s'ils les font, c'est si maladroitement et si pauvrement qu'ils sont jugés par un critique de cours si disgracieux qu'ils ne seraient propres qu'à servir de risée et à être moqués. Mais quel homme sobre n'estimera pas leur obéissance au-dessus de la vanité et de l'hypocrisie des autres? Cette vile notion de l'honneur met le vrai à la porte et met le faux à sa place. Qu'on considère encore que la manière ou la façon de le faire est bien plus dans l'intention de ce qu'il exécute, ainsi que dans le regard des spectateurs, que le respecte lui-même. D'où l'on dit communément « c'est un homme de bonne tenue caractère » ou « c'est une femme à la conduite exacte ». Et qu'est-ce que cette conduite, sinon des postures fantasques, contraintes, des courbettes serviles, contre nature pour leur tournure, et qui, si ce n'était pas à la mode, seraient ridicules aux yeux de tous, et c'est pourquoi, dans les pays d'Orient, cela est devenu un proverbe. 27. Mais encore, huitièmement, l'honneur réel ne consiste pas à ôter un chapeau, ni en une révérence, ni en un titre, parce que toutes ces choses s'obtiennent pour de l'argent. C'est pourquoi combien y a-t-il dans le pays d'écoles de danse, de pièces de théâtre, etc., où l'on envoie ordinairement la jeunesse pour être instruite dans ces vaines modes. Tandis qu'ils ignorent l'honneur qui vient de Dieu, et que leurs esprits sont attirés vers les choses visibles qui périssent, et au lieu de se souvenir de leur Créateur, ils s'occupent de babioles et de frivolités, et parfois pire encore, au point de se coûter une exhérédation, et d'apporter à leurs parents inconsidérés chagrin et misère tous les jours de leur vie. Pro 3.9. Si les parents honoraient Dieu en secourant ces pauvres avec les biens qu'ils consacrent à une telle éducation, ils trouveraient un bien meilleur compte à la fin. 28. Mais enfin, nous ne pouvons estimer que les révérences, les titres et le fait d'ôter son chapeau soient un honneur réel, parce que de tels usages ont été interdits par Dieu, son Fils et ses serviteurs dans les temps passés. Je m'efforcerai de le montrer par 3 ou 4 autorités expresses. 29. Mon premier exemple et mon autorité sont tirés de l'histoire de Mardochée et d'Aman, si proches de ce point, que je pense qu'elles devraient au moins imposer silence aux objections fréquemment avancées contre nous. Aman était premier ministre d'État et favori du roi Assuérus. Le texte dit que le roi éleva son siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui, et tous les serviteurs du roi s'inclinaient et rendaient hommage à Aman, car le roi l'avait ainsi ordonné à son sujet. Mais Mardochée, semble-t-il, ne s'inclinait pas et ne lui rendait pas hommage. Esther 3:1-2. Cela tourna d'abord mal pour Mardochée, une potence fut préparée pour lui sur l'ordre d'Aman. Mais la suite de l'histoire montre qu'Aman fut pendu à son propre stratagème et termina son orgueil avec sa vie dessus. Eh bien, maintenant, parlant comme le monde parle, et considérant Mardochée sans connaître l'issue, Mardochée n'était-il pas un vrai rustre? À tout le moins un homme sot, morose et fantasque, de courir un tel danger pour une bagatelle comme s'incliner devant Aman. Quel mal cela lui aurait-il fait de s'incliner et d'honorer quelqu'un que le roi honorait? Ne méprisait-il pas le roi en méprisant Haman? Non, le roi n'avait-il pas commandé ce respect, et ne devons-nous pas honorer et obéir au roi? On aurait pensé qu'il aurait pu s'incliner pour l'amour du roi, quoi qu'il eût dans le cœur, et s'en tirer assez bien, car il ne s'inclinait pas seulement devant Haman, mais devant l'autorité du roi. D'ailleurs, ce n'était qu'une cérémonie innocente. Mais il semble que Mardochée était trop simple et ferme, et pas assez fin et subtil pour éviter le déplaisir d'Haman. Néanmoins, c'était un excellent homme, il craignait Dieu et pratiquait la justice. En cela même aussi il plut à Dieu, et même au roi finalement, qui avait le plus de raisons de se fâcher contre lui, car il l'éleva à la dignité d'Haman, et si cela pouvait être, à un honneur plus grand encore. Il est vrai que d'abord vinrent de tristes nouvelles, rien de moins que la destruction de Mardochée, et aussi de tout le peuple des Juifs à cause de lui, mais l'intégrité et l'humiliation de Mardochée, ses jeûnes et ses cris puissants vers Dieu prévalurent, et le peuple fut sauvé, et le pauvre Mardochée condamné en vient, après tout, à être élevé au-dessus des princes, en cela ou en tout autre respect. Ceux qui persévèrent fidèlement dans ce dont ils sont convaincus que Dieu l'exige d'eux, bien que cela aille contre le tempérament et l'humeur du monde, et même des leurs, trouveront à la fin une heureuse récompense. Mes frères, souvenez-vous de la coupe d'eau froide, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Et rappelez-vous que notre capitaine ne s'inclina pas devant celui qui lui dit « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la gloire du monde, nous inclinerons-nous donc, au nom suivons notre bienheureux chef, 30. » Mais avant de quitter cette section, il convient que j'ajoute que lors d'un entretien avec un évêque récent, et non des moins éminents sur ce sujet et cet exemple, je me souviens qu'il chercha à l'éluder ainsi. Mardochée, dit-il, ne refusa pas de s'incliner comme témoignage de respect envers le favori du roi, mais lui étant une figure et un type de Christ, refusa parce qu'Ouram était de l'incirconcision et devait plutôt s'incliner devant lui. Moi je répondis qu'en accordant que Mardochée est une figure de Christ, et les Juifs le peuple de Dieu ou l'Église, et que comme les Juifs furent sauvés par Mardochée, l'Église est sauvée par Christ. Cela joue pour moi, car alors, par cette raison, la circoncision spirituelle ou le peuple de Christ ne doit pas recevoir ni se plier aux mots des coutumes de l'incirconcision spirituelle, qui sont les enfants du monde. Et ce qui était condamnable il y a si longtemps au temps du type et de la figure ne peut en aucune manière être reçu. Au contraire, cela montre expressément que nous devons fidèlement décliner ces usages mondains, et ne pas nous façonner selon la conduite des gens attachés aux choses terrestres, mais être renouvelés et changés dans nos voies, et nous tenir étroitement à notre Mardochée, qui n'ayant pas fléchi, nous ne devons pas fléchir, nous qui sommes son peuple et ses disciples. Quelles que soient nos souffrances ou nos opprobres, ils auront une fin. Mardochée, notre capitaine, qui paraît pour son peuple dans toutes les provinces à la porte du roi, nous délivrera enfin, et pour l'amour de lui, nous serons favorisés et aimés du roi lui-même aussi. Tant est puissant à la fin le fidèle Mardochée. Regardons donc tous à Jésus notre Mardochée, l'Israël véritable, celui qui a pouvoir auprès de Dieu, et qui ne voulut pas fléchir à l'heure de la tentation, mais a puissamment triomphé, et est donc prince à jamais, et son règne n'aura pas de fin. Isaïe 9, 7, 31. L'exemple suivant de l'Écriture que j'invoque contre ces usages est un passage de Job, ainsi formulé, « Qu'il ne m'arrive pas, je vous prie, de faire acception de personne, et que je ne donne pas à l'homme des titres flatteurs. » Car je ne sais pas donner des titres flatteurs, en agissant ainsi, mon Créateur m'enlèverait bientôt. Job 32, 21-22. La question qui se posera à la lecture de ce passage est celle-ci, à savoir, quels titres sont flatteurs? La réponse est évidente, des titres vides et fictifs, qui font de l'homme plus qu'il n'est, comme appeler un homme ce qu'il n'est pas pour lui plaire, ou l'élever au-dessus de son vrai nom, de sa charge ou de son mérite, pour gagner son affection, lui qui peut-être convoite l'honneur et le respect de tel titre. Très excellent, très sacré votre grâce, votre seigneurie, très redoutable majesté, très honorable, très vénérable encore, que plaît à votre majesté, votre grâce, votre seigneurie, votre honneur, révérend, votre vénération. De même, appeler un homme ce qu'il n'est pas, comme mon seigneur, mon maître, etc., et sage, juste ou bon, quand il ne l'est pas seulement pour lui plaire ou lui marquer du respect. Cela se faisait parmi les Juifs, dans leur dégénérescence, ainsi quelqu'un vint à Christ et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Luc 18, 18. C'était une salutation ou une formule de respect en ces temps-là. C'est familier maintenant, bon mon Seigneur, bon Monsieur, bon Maître, fais ceci ou fais cela. Mais quelle fut la réponse du Christ, comment le prit-il? Pourquoi m'appelles-tu bon, dit Christ, nul n'est bon, sinon un seul, Dieu, verset 19. Celui qui le refusa avait plus de droit de le retenir que tout le genre humain. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un plus grand que lui, et il vit que l'homme l'adressait à son humanité, selon la coutume du temps, et non à sa divinité, qui demeurait au-dedans de l'homme. C'est pourquoi Christ le refusa, nous montrant et nous instruisant que nous ne devons pas donner communément de telles épithètes et titres aux hommes, car puisque bon n'éduque à Dieu et à la piété, cela ne peut être dit que par flatterie à l'homme déchu, et c'est donc un péché de le dire ainsi. Cette vie simple et exacte convenait bien au Christ, qui s'est manifesté précisément pour ramener et restaurer l'homme de sa lamentable dégénérescence à l'innocence et à la pureté de sa première création, et qui nous a appris à être attentifs à la manière dont nous usons et donnons des attributs à l'homme, par cette parole très sévère, « De toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement » Matt 12, 36. Et ce qui devrait avertir tous les hommes de la latitude qu'ils prennent ici, et justifier suffisamment notre délicatesse, c'est que l'homme peut difficilement commettre une plus grande injure et offense envers Dieu Tout-Puissant que d'attribuer l'un quelconque de ses attributs à l'homme, créature de sa parole et ouvrage de ses mains. Il est un Dieu jaloux de son honneur et ne donnera pas sa gloire à un autre. De plus, cela touche de si près au péché des anges déchus aspirants, qui voulurent être plus grands et meilleurs que ce que le grand Seigneur de tous les avait fait, que donner à l'homme un rang au-dessus de sa condition et de sa sphère ressemble tant à l'idolâtrie, le péché impardonnable sous la loi, qu'il est difficile de comprendre comment des hommes et des femmes professant le christianisme et réfléchissant sérieusement à leur vanité et à leur mal en ces choses peuvent y persévérer, à plus forte raison les défendre, et moins que tout encore reprocher. Il semble qu'Élie n'osa pas le faire, mais il donna à cette affaire tant de poids qu'il en fit une des raisons de son abstention, à savoir, « De peur que mon Créateur ne m'enlève bientôt, c'est-à-dire, de peur que Dieu ne me frappe de mort, je n'ose donner à l'homme des titres qui sont au-dessus de lui, ou des titres seulement pour lui plaire. Je ne puis, d'aucune manière, flatter cet esprit qui convoite de telles choses. Dieu doit être exalté, et l'homme abaissé. Dieu est jaloux qu'on élève l'homme au-dessus de sa condition. Il veut qu'il garde sa place, qu'il connaisse son origine, et qu'il se souvienne du rocher d'où il a été tiré, que ce qu'il a été emprunté n'est pas à lui mais à son Créateur, qu'il a produit et soutenu, ce que l'homme est fort enclin à oublier. De peur que je ne m'en rende complice par des titres flatteurs, au lieu de lui dire véritablement et simplement ce qu'il est, et de le traiter comme il doit l'être, et que je n'irrite ainsi mon Créateur, et que lui, dans sa colère et sa jalousie, ne m'enlève bientôt, ou ne fasse venir sur moi une mort soudaine et une fin prématurée, je n'ose les employer, je n'ose donner des titres flatteurs aux hommes. 32. Mais quand bien même, nous n'aurions pas cela à alléguer des écrits de l'Ancien Testament, il devrait et il suffirait aux chrétiens que ces usages sont sévèrement censurés par le grand Seigneur et maître de leur religion, qui est si loin d'exiger que les gens se rendent honneur les uns aux autres, qu'ils ne les y tolèrent pas, quelles que soient les coutumes du pays où ils vivent. Car il en fait grief aux Juifs comme marque de leur apostasie, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ainsi leur incrédulité à l'égard de Christ est présentée comme l'effet de la recherche de l'honneur du monde au lieu de l'honneur céleste seul. Cela s'entend aisément, si nous considérons que l'amour-propre et le désir d'honneur venant des hommes sont incompatibles avec l'amour et l'humilité de Christ. Ils recherchaient la bonne opinion et le respect du monde. Comment alors leur eût-il été possible de tout quitter pour le suivre, lui dont le royaume n'est pas de ce monde, et qui vint d'une manière inattendue, qui contrariait l'esprit et le relâchement du monde? Le sens de notre Seigneur Jésus est clair, car il nous dit quel était cet honneur qu'il donnait et recevait, pour lequel il les condamna, et au sujet duquel il avertit les disciples de se garder de la réaction du monde face à son humilité et à sa croix. Et paroles, et il ne les dit pas de la foule, mais des docteurs, des grands, des hommes d'honneur parmi les Juifs. Ils aiment, dit-il, les premières places dans les festins, Matt 23, 6, c'est-à-dire les places de plus grand rang et de plus grand respect, et les salutations, Marc 12, 38, 39, c'est-à-dire les marques de respect, tel côté son chapeau et incliné le corps le sont à notre époque, sur les places de marché, c'est-à-dire dans les lieux de remarque et d'affluence, les promenades publiques et les lieux d'échange du pays. Et enfin, ils aiment, dit Christ, à être appelés des hommes, Rabbi, Rabbi, l'un des titres les plus éminents parmi les Juifs. Un mot qui renferme une excellence équivalente à de nombreux titres, il peut correspondre à votre grâce, votre seigneurie, très révérend père, etc. C'est sur ces hommes de bonne éducation et de qualité qu'il prononce ses malheurs, faisant de ses pratiques certains des signes du mal par lesquels les reconnaître, ainsi que certains des motifs de ses menaces contre eux. Mais il n'a pas encore fini d'enseigner au sujet de l'honneur. Il poursuit ce point même, l'honneur, plus que tous les autres, dans son avertissement à ses disciples, à qui il commanda, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, savoir Christ, et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas non plus appeler maître, mais que le plus grand parmi vous soit votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé. » Matt 23, 8, 12. Il est clair que ces passages portent un sévère reproche, à la fois contre l'honneur mondain en général, et contre ses éléments et expressions particulières, qui, autant que le langage de l'Écriture et les coutumes de ce temps le permettent, atteignent distinctement et font allusion à ceux de notre époque, pour le refus desquels nous avons tant souffert d'opprobre et d'abus, dans nos personnes comme dans nos biens. Que Dieu pardonne les auteurs déraisonnables de cela. 33. L'apôtre Paul a une parole de grand poids et de grande ferveur, dans son épître aux Romains, très conforme à cette doctrine de Christ. La voici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Rome 12, 1, 2. Il écrivait à un peuple au milieu de la pompe et de la gloire du monde, qui prennent au piège. Rome était le siège de César et de l'Empire, la maîtresse de l'invention. Ces modes, comme celles de la France aujourd'hui, faisaient loi au monde, du moins à Rome, où l'on dit proverbialement, cur furi Roma, Romano vivito mor, quand tu es à Rome, il faut faire comme Rome fait. Mais l'apôtre est d'un autre avis. Il avertit les chrétiens de cette ville de ne pas se conformer, c'est-à-dire de ne pas suivre les modes et coutumes vaines de ce monde, mais de les quitter. L'accent porte sur ceci, autant que sur conformer, et cela implique que ce monde, auquel il ne devait pas se conformer, était l'état corrompu et dégénéré de l'humanité en ce temps-là. C'est pourquoi l'apôtre poursuit en exhortant ses croyants, et cela par les compassions de Dieu, l'argument le plus puissant et le plus attirant de tous, à être transformé, c'est-à-dire changé quant à la manière de vivre habituelle parmi les Romains, et à discerner quelle est la volonté agréable de Dieu. Comme s'il avait dit, « Examinez ce que vous faites et pratiquez, voyez si c'est juste, et si cela plaît à Dieu, appelez à jugement toute pensée, toute parole et toute action, Jean 3, 21, éprouvez s'ils sont accomplis en Dieu ou non, afin que vous puissiez éprouver ou connaître quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » 34. L'autorité scripturaire suivante à laquelle nous en appelons, pour notre justification, est un passage de l'apôtre Pierre, dans sa première épître écrite aux étrangers croyants à travers les pays du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui étaient les églises de Jésus-Christ en ces régions du monde, rassemblées par sa puissance et son esprit. Le voici, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ, comme des enfants obéissants, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, 1 Pierre 1, 13, 14. C'est-à-dire, qu'on ne vous trouve pas dans les modes et coutumes vaines du monde, auxquels vous vous conformiez dans votre ignorance passée. Mais puisque vous avez cru en une voie plus simple et plus excellente, soyez sobre et ferve, et espérez jusqu'au bout. Ne renoncez pas, qu'ils se moquent de vous, supportez constamment la contradiction des pécheurs, comme des enfants obéissants, afin de recevoir la bonté de Dieu à la révélation de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre les appelle étrangers, façon de parler figurée, des gens devenus étrangers aux coutumes du monde, d'une foi et de mœurs nouvelles, et ainsi inconnus du monde. Et si ceux-là sont des étrangers, alors ils ne doivent pas se modeler ni se conformer à ces respects et honneurs complaisants de ceux dont ils sont devenus étrangers, parce que cette étrangeté consistait à quitter ce qui leur était auparavant coutumier et familier. Les mots suivants prouvent qu'il employait le mot « étranger » en un sens spirituel. « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, 1 Pierre 1, 17, c'est-à-dire, passez dans la crainte, le temps où vous êtes comme des étrangers sur la terre, non selon les modes du monde. » Un mot au chapitre suivant explique encore son sens lorsqu'il dit aux croyants qu'ils sont un peuple particulier, à savoir un peuple distinct, singulier et séparé du reste du monde, qui ne doit plus se modeler selon leurs coutumes. Mais je ne vois pas comment cela est possible, s'ils vivent en communion avec les respects et honneurs du monde. Un tel comportement n'est pas être un peuple particulier ou séparé des modes du monde, mais plutôt leur ressembler, en s'y conformant. 35. Je conclurai mes « témoignages scripturaires contre les respects ci-dessus par ce passage mémorable et précis de l'apôtre Jacques contre l'acception de personnes en général, selon la mode du monde ». Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec acception de personne. Car s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, vêtu d'un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre vêtu d'un habit misérable, et que vous regardiez avec égard celui qui porte l'habit éclatant, et que vous lui disiez « Assieds-toi ici dans une bonne place ou convenablement et honorablement comme porte le mot », et que vous disiez au pauvre « Tiens-toi là ou assieds-toi ici au-dessous de mon marchepied », n'êtes-vous pas partiaux en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges aux pensées mauvaises ? Jacques 2, 1, 4. C'est-à-dire, il savait qu'il faisait mal, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, et vous êtes convaincu par la loi comme transgresseur, Jacques 2, 8, 9. C'est si complet qu'il semble ne rien rester à ajouter, ni aux autres à objecter. Nous ne devons pas faire acception, montrer une préférence pour certaines personnes, c'est la première chose, et la seconde est que si nous le faisons, nous commettons un péché et nous transgressons la loi, astérisque à nos risques et périls. Pourtant, peut-être certains diront que, par là, nous renversons toutes les distinctions entre les hommes, selon leurs diverses qualités, et introduisons à leur place un respect réciproque et relationnel. Mais si c'est ainsi, je n'y puis rien, l'apôtre Jacques devra en répondre, lui qui nous a donné cette doctrine. Pourtant, un plus grand que lui dit à ses disciples, dont Jacques était, « Vous savez que les princes des nations dominent sur elles, il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur, » Matthieu 20, 25-27. C'est-à-dire, celui qui désire régner et cherche la première place sera estimé le moindre parmi vous. À vrai dire, sur l'ensemble de la question, que nous regardions ces premiers temps du monde, antérieurs à la venue de Christ ou peu après, il y avait encore une plus grande simplicité que dans les temps où nous sommes tombés. Car ces premiers temps du monde, aussi mauvais qu'ils fussent par ailleurs, étaient de grands étrangers à la fréquence de ces folies, non, ils en usaient à peine de certaines, du moins très rarement. Car si nous lisons les Écritures, un titre comme « Monseigneur Adam, quoique seigneur du monde, ne s'y trouve pas, ni Monseigneur Noé non plus, le second seigneur de la terre, ni même Monseigneur Abraham, le père des fidèles, ni Monseigneur Isaac, ni Monseigneur Jacob, mais bien moins encore Monseigneur Paul, etc. » ne se trouve dans la Bible, et moins encore votre sainteté ou votre grâce. Ou qu'en est-il du révérend Dieu ou de votre honneur? Non, même parmi les gens portaient leur propre nom avec plus de simplicité, et n'usaient pas de la cérémonie de langage qui se pratique maintenant parmi les chrétiens, ni même de rien de semblable. Monseigneur Solon, Monseigneur Phocion, Monseigneur Platon, Monseigneur Aristote, Monseigneur Scipion, Monseigneur Fabius, Monseigneur Caton, Monseigneur Cicéron, ne se lisent dans aucune histoire grecque ou latine, et pourtant ils furent quelques-uns des sages et des héros de ces grands empires. Non, leur propre nom suffisait à les distinguer des autres hommes, et leur vertu et leur emploi au service public étaient leur titre d'honneur. Cette vanité n'a pas encore beaucoup pénétré les auteurs latins, chez qui il est courant de citer les plus savants et les plus nobles sans aucune addition à leur nom, sinon dignes ou savants, et si leurs œuvres le leur accordent, nous ne faisons pas scrupule de le leur refuser. Par exemple, les pères, on ne les cite qu'ainsi, Polycarpus, Ignatius, Irnaï, Cyprien, Tertullian, Origène, Arnobius, Lactantius, Chrysostome, Jérôme, etc. Auteurs plus modernes, Damascène, Rabanus, Pachasius, Theophylacte, Bernard, etc. Et du dernier âge, Loup de Melanchthon, Calvin, Bezaz, Zuinglius, Marlora, Vossius, Grotius, Dalleux, Amiraldu, etc. Et de notre pays, Gilda, Beda, Alcuinus, Horn, Bracton, Grosteed, Littleton, Cranmer, Ridley, Joule, Whittaker, Seldon, etc. Et pourtant, je présume que cela ne sera pas jugé impoli ni grossier. Pourquoi donc notre simplicité, celle des Quakers, si honnêtement fondée en conscience contre l'orgueil de l'homme, qui aime et recherche si mal et si pernicieusement l'adoration et la grandeur, est-elle tant méprisée et maltraitée, et ce mauvais traitement par des chrétiens professants même, qui prétendent être les disciples de celui qui a interdit ces usages insensés, aussi clairement que toute autre impiété condamnée dans sa doctrine? Je prie instamment les amateurs, les pratiquants et les demandeurs de ces cérémonies de laisser cet écrit avoir quelques considérations et quelques poids auprès d'eux. Astérisque Jacques dit que faire acception de personnes transgresse la loi. Quelle loi? La loi de Dieu qui est dans le cœur de tout homme et qui n'a jamais été abrogée. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voire jusqu'à ce que vos paroles et vos actes soient inspirés par Dieu, vous devez obéir à la loi intérieure dans le cœur de tout homme. 36. Cependant, les vrais chrétiens ne sont pas aussi mal élevés que le monde le pense parce qu'ils s'abstiennent des vanités d'honneur envers les hommes, car eux aussi montrent du respect. Mais la différence entre eux réside dans la nature du respect qu'ils rendent et dans les raisons qui les y portent. Le respect du monde est une cérémonie vide, sans âme ni substance. Le respect du vrai chrétien est substantiel, soit par l'obéissance au supérieur, l'amour envers les égaux ou l'aide et la bonté envers les inférieurs. Ensuite, leurs raisons et motifs d'honorer et de respecter sont très différents. Les beaux vêtements, les titres vides ou de grands revenus sont les motifs du monde, puisque ce sont des choses que ses enfants adorent. Mais les motifs du chrétien sont le sens de son devoir devant Dieu, d'abord envers les parents et les magistrats, puis envers les relations inférieures, et enfin envers tous selon leur vertu, leur sagesse et leur piété, ce qui est fort éloigné du respect de la simple personne des hommes ou du désir de leur admiration comme récompense, encore moins sur d'aussi pauvres et vils motifs que la richesse ou l'élégance de l'habillement. 37. Nous concéderons aisément que notre honneur et notre religion sont plus cachés, et que ni l'un ni l'autre ne sont aussi discernables par les hommes mondains, ni appréciés par eux. Notre simplicité paraît étrange, gauche, et va puissamment à rebours, mais ainsi le christianisme a paru et paraît encore, et pour les mêmes raisons. Si l'esprit païen n'avait pas prévalu trop longtemps sous le déguisement d'une profession chrétienne, il ne serait pas si difficile de discerner le juste de l'injuste. Oh, que les chrétiens se regardent eux-mêmes dans le miroir de la justice, qui dit vrai et leur donne une connaissance exacte d'eux-mêmes, et qu'ils examinent ensuite ce qui, en eux et autour d'eux, s'accorde avec la doctrine et la vie de Christ, et ils pourront bientôt résoudre s'ils sont de vrais chrétiens, ou simplement des païens baptisés du nom de chrétien. Quelques témoignages d'auteurs anciens et modernes en faveur de notre conduite 38. Marlora, d'après l'étude de Lude et de Calvin, au sujet de ce passage remarquable que je viens de citer de l'apôtre Jacques, nous donne le sens que ces réformateurs primitifs avaient de l'acception de personne, en ces termes, respecter les personnes ici, c'est avoir égard à l'habit et à la tenue. L'apôtre signifie que cette acception de personne est si contraire à la vraie foi qu'elles sont absolument incompatibles. Mais si la pompe et autres considérations mondaines prévalent et affaiblissent ce qui est de Christ, c'est le signe d'une foi qui décline. Oui, si grande est la gloire et la splendeur de Christ dans une âme pieuse, que toutes les gloires du monde n'ont aucun charme, aucune beauté, en comparaison, pour quelqu'un ainsi porté à la justice. L'apôtre fait de cette acception de personne quelque chose de contraire à la lumière en eux, de sorte que ceux qui suivent ces pratiques sont condamnés du dedans d'eux-mêmes. Ainsi, la sainteté doit être la raison ou le motif de tout respect extérieur, et nul ne doit être honoré pour quelque cause que ce soit, sinon la sainteté. Voilà pour Marlora. Or, si c'est là une doctrine vraie, nous faisons très bien de refuser de nous conformer au vain respect des hommes du monde. 39. Mais j'ajouterai à cela l'avertissement d'un savant écrivain ancien, qui veille qu'il y a environ 1200-500 ap. J.C. en fort estimé, à savoir Jérôme, qui écrivant à une noble matrone s'élancia, et lui montrant comment vivre au milieu de sa prospérité et de ses honneurs, parmi beaucoup d'autres instructions religieuses, s'exprime ainsi, « Ne fais aucun cas de ta noblesse, et que cela ne te donne pas raison de dominer sur qui que ce soit. N'estime pas ceux d'origine plus humble comme tes inférieurs, car notre religion n'admet aucune acception de personne, et ne nous porte pas à avoir une haute opinion des hommes à cause d'un état extérieur. Mais c'est par là que nous déclarons les hommes nobles ou vils. Pour Dieu, ne pas servir le péché, c'est être libre, et exceller en vertu, c'est être noble. Dieu a choisi les pauvres et les méprisables de ce monde pour humilier les grands. D'ailleurs, c'est une folie pour quiconque de se vanter de sa naissance, puisque tous sont également estimés de Dieu. Le rachat du pauvre et du riche a coûté à Christ une même dépense de sang. Et il importe peu dans quel état un homme naît, la nouvelle créature ne connaît aucune distinction. Quand bien même nous oublierions que nous descendons tous d'un seul Père, nous devrions du moins nous souvenir sans cesse que nous n'avons qu'un seul Sauveur. 40. Mais puisque je m'élève contre ces usages frivoles et stériles, fruits et plaisirs propres des esprits vains et orgueilleux, qu'il me soit permis d'ajouter encore un passage mémorable, tel qu'il est rapporté par le célèbre Casaubon dans son discours sur l'usage et la coutume, où il résume brièvement ce qui se passa entre Sulpice Sévère et Paulin, évêque de Nol qui avait tout donné pour racheter des captifs, tandis que d'autres de cette fonction, afin de montrer qui est leur maître, font beaucoup de mendiants et de captifs en approuvant le pillage et l'emprise. Il expose l'affaire ainsi, « Depuis peu d'années parmi nous, on ne passe plus pour un homme civil, si l'on trouve trop, ou si l'on refuse, de se souscrire serviteur, même à l'égard de son égal ou d'un inférieur. » Au contraire, Sulpice Sévère fut autrefois vivement repris par Paulin pour s'être souscrit son serviteur dans une lettre, en disant, « Prends garde désormais à ceci, toi qui d'un serviteur as été appelé à la liberté, ne te souscris pas serviteur à celui qui est ton frère et ton compagnon de service, car c'est une flatterie pécheresse, et non un témoignage d'humilité que de rendre à un homme et à un pécheur des honneurs qui sont dus au seul Seigneur, au seul Maître et au seul Dieu. » Par là, nous voyons le sentiment de certains des évêques les plus apostoliques, touchant les civilités et les modes si estimés parmi des gens qui se disent chrétiens et évêques, et qui prétendent être leurs successeurs. Ce qui était alors un péché est devenu chez eux une qualité, c'était alors flatterie, c'est maintenant respect, c'était alors digne d'un sévère reproche, et maintenant, hélas, ne pas l'employer mérite un sévère reproche, ô monstrueuse vanité. Combien profondément, ce qu'on appelle chrétiens se sont-ils éloignés de la simplicité des premiers jours et de la pratique des saints hommes et femmes des âges passés. Comment se sont-ils dégénérés en des usages relâchés, orgueilleux et dissolus du monde, qui ne viennent pas de Dieu, au point que l'usage a rendu ces choses, condamnées par l'Écriture, la raison et l'exemple, presque naturelles. Et ils sont si insensibles à leurs causes et à leurs mauvais effets, qu'ils ne se contentent pas de les pratiquer, mais les défendent, et d'une manière non chrétienne, se moquent ouvertement de ceux qui ne peuvent les imiter. Mais je passerai à ce qui reste encore à dire pour notre défense, en refusant une autre coutume, qui contribue à faire de nous une pierre d'achoppement pour ce siècle léger, vain et inconsidéré. Suite au chapitre 10, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.